VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Au Gabon, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guinzou Bandama, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue au second semestre de 2016. Il rejoint ainsi la liste des adversaires déclarés du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à ce scrutin, notamment l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, et l'ancien Premier ministre, Raymond Dong Sima. Les explications du sociologue gabonais Anaclet Bissielou.
En arrière-plan de cette annonce de candidature, c'est d'abord la crise du PDG, c'est d'abord la crise du parti au pouvoir. Et je crois que c'est surtout cet arrière-plan-là qui retient l'attention des Gabonais. La candidature s'inscrivant par ailleurs dans un contexte où il y a déjà eu près d'une dizaine de candidatures qui ont précédé la sienne. Donc en résumé, c'est surtout le fait que cette candidature d'un hiérarque ne laisse plus aucun doute sur la crise au sein du PDG.
Le sociologue gabonais Anaclet Bissielou. Le bilan des récents affrontements au Congo-Brazzaville maintenant, selon le gouvernement, 17 personnes dont 3 policiers, 12 assaillants et 2 civils ont trouvé la mort pendant les violences dans la capitale. Par ailleurs, les autorités affirment détenir des preuves accablantes contre le pasteur Tatan Toumi, ancien chef ninja, comme principal auteur de cette attaque. Dans la ville de Brazzaville, le calme est maintenant revenu dans les quartiers sud, mais le déploiement militaire et policier reste intact, ce qui retarde parfois le retour massif des populations. Congo-Kinshasa, l'ONG congolaise Justicia ASBL a adressé une lettre ouverte au ministre de la Défense concernant la récente militarisation de la province du Katanga à l'approche des élections. Nathalie Barge a joint le président de cette ONG, Timothée Mbouya, à Lubumbashi.
Depuis le vendredi passé, nous avons constaté effectivement qu'il y a une très forte présence militaire dans la ville et les populations sont très, très inquiètes. Une soixantaine de chars d'assaut sont arrivés donc à Lubumbashi et selon les informations que nous disposons, les chars sont restés à Kalina et quelques autres vont devoir arriver à Kalini et à Kolesi. Plus ou moins 10 000 commandos sont aussi arrivés. Certains sont restés à Kalina et d'autres vont être déployés dans les villes que je venais de citer tantôt. Ça fait que l'activité économique et les déplacements de la population sont plus ou moins réduits. Mais la nuit, les gens sont malheureusement obligés de rentrer à la maison un peu plus tôt parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer et pourquoi toutes ces manœuvres militaires.
Alors justement, est-ce que l'on vous a donné une explication sur cette présence militaire officiellement?
Depuis que nous avons constaté cette présence militaire dans notre région, aucune autorité locale n'a daigné donner une quelconque explication. Nous avons appris par la voix des hommes d'hier, un ministre s'est prononcé là-dessus. Il a dit que c'était dans le cadre normal de renforcement des capacités de l'armée. Nous le faisons bien, mais selon l'information que nous venons de recevoir aujourd'hui, ces armes lourdes sont entreposées dans le camp de la garde républicaine. Nous aurions voulu que ces armes soient gérées par les FADC. Et donc, la population s'inquiète juste et juste parce que nous approchons de la période électorale. C'est pour la question de savoir pourquoi seulement les Katanga et pourquoi seulement maintenant, pourquoi ces chars d'assaut sillonnent les grandes avenues de la ville de Lubumbashi particulièrement.
Est-ce que vous pensez qu'il y aurait éventuellement un rapport avec le fait que Moïse Katumbi se soit présenté candidat?
Nous avons raison de le croire. Et d'ailleurs, dans notre lettre ouverte, nous avons dit au ministre que nous serions contents de savoir que ces armes ne seront pas utilisées sur une population civile qui revendiquerait l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc, il est vrai que depuis que Moïse a démissionné, depuis qu'il a rejoint le rang de l'opposition, il commence à faire le mouvement des choses dans la province et peut-être que tout ce qui se passe a un lien direct avec le fait que lui et M. Moïse soient retirés de la majorité présidentielle.
Maître Timothée Mbouya, président de Justicia ASBL à Lubumbashi en RDC. Au Tchad, la marche pacifique de la coalition des organisations de la société civile de mardi a été violemment réprimée par la police nationale. Cette marche pacifique, interdite par les autorités, visait non seulement à exiger la libération des 5 leaders de la société civile arrêtés, mais aussi à protester contre la candidature du président Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle du 10 avril.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Bénin, prestation de serment aujourd'hui de l'homme d'affaires Patrice Talon, vainqueur de la présidentielle avec plus de 65% des voix. Dans son discours d'investiture à Porto Novo, la capitale politique, le nouveau président du Bénin s'est engagé à n'exercer qu'un seul quinquennat, une des grandes promesses de sa campagne présidentielle. Je ferai de mon mandat unique une exigence morale en exerçant le pouvoir d'État avec dignité et simplicité, a affirmé le président Talon en soulignant sa détermination à mettre en place de grandes réformes politiques et institutionnelles dans le pays. Au Niger, deux civils tués par deux kamikazes qui se sont fait exploser mardi dans un véhicule de transport public près de Difa, dans l'extrême sud-est du pays. Les détails avec John Lyndon.
Le véhicule transportait des passagers sur l'axe routier Difa-Bosso, près du Nigeria. Selon un habitant de Difa, une femme et un enfant et les deux kamikazes ont été tués dans l'explosion. C'était le jour de marché à Difa. Immédiatement après l'attaque, deux avions ont survolé la ville, apparemment pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infiltration de combattants islamistes. Le 30 mars, six soldats nigériens ont été tués dans une embuscade tendue par des éléments de Boko Haram. Environ deux semaines plus tôt, le 17 mars, trois jours avant la présidentielle, un commandant de l'armée nigérienne a été tué par des kamikazes. Ces violences ont conduit à des déplacements de centaines de milliers de personnes dans la région. En plus de Boko Haram, le Niger déploie aussi un effort particulier pour contrôler le risque d'incursion des djihadistes venant du Mali.
À Djibouti, le président sortant Ismaël Omar Guelleh, qui règne sans partage depuis 1999 sur son pays, semble promis à une confortable réélection lors de la présidentielle de vendredi, boycottée par une partie de l'opposition. Quelques 187 000 électeurs sur une population de 875 000 habitants sont appelés à se rendre aux urnes pour choisir leur président parmi six candidats. Les résultats devraient être annoncés le soir même. Peine de mort dans le monde, Amnesty International révèle qu'il y a eu 1634 exécutions sur notre globe en 2015, le chiffre le plus élevé de mise à mort depuis 1989. Ces chiffres n'englobent pas la Chine où ce type de statistique est classé secret d'État. En revanche, parmi les 11 premiers pays cités par Amnesty, l'on compte 3 sur le continent africain. Jean-Roger Bion.
C'est l'Égypte qui bat le record en Afrique avec plus de 538 exécutions, suivi du Nigeria avec 171, tandis que l'Algérie enregistre plus de 62, selon Amnesty International. Les exécutions de condamnés à mort ont bondi de plus de 50% dans le monde l'année dernière, atteignant leur plus haut niveau depuis 1989. Salam, l'Organisation de défense des droits de l'homme. L'Iran, le Pakistan et l'Arabie Saoudite ont fait exécuter un nombre impressionnant de condamnés à mort à l'issue bien souvent de procès d'une iniquité flagrante. Mais malgré l'augmentation choquante des exécutions dans les trois pays asiatiques, la tendance mondiale sur le long terme est à l'abolition de la peine de mort, souligne Amnesty dans son rapport de ce mercredi, rappelant que lorsque l'organisation a commencé à faire campagne contre la peine capitale en 1977, seuls 16 pays l'avaient abolie. Aujourd'hui, l'on compte 102 pays abolitionnistes.
Les primaires présidentielles aux États-Unis maintenant, les favoris Donald Trump chez les Républicains et Hillary Clinton chez les Démocrates ont essuyé chacun un revers mardi dans l'État de Wisconsin, permettant ainsi à leurs concurrents de légèrement rattraper leur retard dans la course aux délégués pour l'investiture comme candidat à la présidence. Côté démocrate, le sénateur du Vermont Bernie Sanders et chez les Républicains, son collègue du Texas Ted Cruz se présentent désormais comme de sérieuses alternatives dans leurs camps respectifs. Pour l'ancien diplomate américain Herman Cohen, les résultats du Wisconsin pourraient inverser les tendances. On l'écoute.
Ça peut être un tournant. Nous allons voir la prochaine élection. C'est important, c'est à New York. New York, il y a un grand nombre de délégués. C'est un État qui a, vers le nord, ils ont des républicains. Et dans la ville de New York, c'est très démocratique. Donc, on va voir. Si Sanders et Cruz gagnent à New York, donc c'est toute une autre histoire. L'élection peut basculer vraiment. Donc c'est toujours très difficile de faire une prédiction pour qui va gagner. Maintenant, on ne peut plus dire ça.
l'ancien diplomate américain Herman Cohen commentant les résultats de la primaire dans l'État du Wisconsin. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.